Europe 1, la vie devant soi. Elisabeth Assayag.
Et bienvenue à tous. Pendant une heure, nous allons parler ensemble de psychologie, de bien-être et de tout ce qui va nous faire du bien. Peut-être reconnu la star Lady Gaga. Lady Gaga, on la connaît pour ses tubes, mais aussi par rapport à sa maladie, la fibromyalgie. La chanteuse a reporté des tournées à cause de cette maladie chronique dont elle parle sans tabou. Et c'est comme ça que des millions de personnes atteintes de la même maladie peuvent se reconnaître et partager les aléas de leur quotidien. Elle n'est pas la seule. Hein. Kanye West parle de sa bipolarité, Whoopi Goldberg de son endométriose. Et rien de mieux pour comprendre une maladie que d'échanger avec ceux qui traversent la même chose. Certains d'entre eux en ont même fait leur métier. Ils sont devenus des patients experts. Les patients experts peuvent-ils faire avancer la médecine? C'est le titre de votre émission. Pour en parler, je reçois la professeure Catherine Tourette-Turgis, fondatrice de l'Université des patients. Le docteur Marcel Ichoux, médecin généraliste, et nous entendrons des témoignages saisissants tout au long de notre émission. Et Marjorie Siddiqui conclura avec son info en plus. Bonjour Marjorie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à tous.
Votre info en plus portera sur
une expérience médicale pas comme les autres. Quand ce sont les médecins qui simulent d'être des patients pour mieux comprendre leur quotidien, ça s'est passé récemment à l'hôpital Beaujon à Paris.
Suivez-nous sur europe1.fr, laissez-nous vos messages et vos témoignages sur Twitter avec le hashtag LVDS ou encore sur le compte Facebook La Vie Devant Soi.
La Vie Devant Soi sur Europe 1.
Patients experts peuvent-ils faire avancer la médecine? On en parle cet après-midi sur Europe 1. Vous en avez fait peut-être vous-même l'expérience. Pas une maladie qui ne génère ses sites internet de patients, ses blogs, ses informations pratiques, y compris pour les proches. Pourtant, au-delà du partage, du vécu, il s'agit parfois de simples petites questions pratiques. Des questions que l'on n'ose pas toujours poser au médecin assis derrière son bureau qui ne vit pas la même chose. La France est le premier pays à proposer un diplôme de patients experts. Bonjour Catherine Tourette-Turgis.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice de l'Université des patients. Vous avez fondé le diplôme qui forme les patients experts. Racontez-nous, de quoi s'agit-il ?
Plutôt qu'un patient expert, si je reprends un peu l'histoire, il était tout à fait en fait normal qu'à un moment ou à un autre, les patients aient envie de transformer leur expérience en expertise au profit et au service de la collectivité. Donc l'Université des patients propose trois types de parcours diplômants, un en cancérologie, un en démocratie en santé, un autre en éducation thérapeutique, et l'offre est à destination des personnes, des patients qui désirent, et des aidants, des proches, qui désirent transformer cette expérience de la maladie en quelque chose qui peut servir à d'autres, à la médecine, mais aussi à la société tout entière, aux proches, à toutes les organisations.
Catherine Tourette-Turgis, vous parlez de transformation, ça veut dire faire quelque chose de sa maladie ?
Oui, il me semble que dans toutes les expériences que l'on peut faire, il y a des expériences qui peuvent être négatives, douloureuses, mais ces expériences, quand on les a passées, on n'a pas envie qu'elles soient passées sous silence. On a envie d'en faire quelque chose, de ne pas en avoir honte, d'en faire même quelque chose qui est de nouvelles capacités, de nouvelles formes d'expertise, et c'est extrêmement important de faire quelque chose de son histoire.
Alors, vous avez fondé ce diplôme il y a 2 ans, en 2016. Aujourd'hui, vous avez un petit recul là-dessus. Vous avez des patients experts en quoi ?
En fait, j'ai fondé l'Université des patients a été créée en 2009-2010, mais disons qu'à partir de 2015-2016, nous avons eu un grand développement grâce à un mécénat. Et en fait, on diplôme maintenant 75 patients par an. Et donc, en fait, si on regarde ce qui s'est passé depuis toutes ces années, ben on a des patients d'abord qui ont trouvé un travail, ce qui est pas
Travail. Vous voulez dire dans le fait d'être patient expert?
Non, qui ont trouvé un travail comme ingénieur en éducation thérapeutique, puisqu'ils ont eu le master d'éducation thérapeutique, qui ont trouvé un travail dans des agences de communication.
Donc ils se sont réinsérés après la maladie, mais vous avez des patients experts diplômés en quoi? Experts en quoi?
Donc les patients, par exemple en cancérologie, c'est une formation de patients accompagnateurs de parcours patients.
D'accord.
En éducation thérapeutique, c'est des patients intervenant en éducation thérapeutique dans les services de soins.
Alors, par exemple, ils sont experts en quel type de service?
Alors, un patient donc, qui intervient en éducation thérapeutique, en fonction de, souvent de sa pathologie, il va venir co-animer des ateliers d'éducation thérapeutique.
Par exemple, pour quel type de maladie?
Alors, les types de maladies, on a plus de 15 pathologies. Donc, on a le lupus, la sclérose en plaques, le VIH, l'hépatite C, le cancer.
Pour toutes ces maladies très lourdes à supporter, ces patients experts sont là pour apporter leur témoignage, pour apporter un accompagnement, c'est ça ?
Oui, beaucoup plus d'ailleurs que leur témoignage, c'est pour ça qu'ils ont un diplôme, ils sont là pour apporter des connaissances aussi, des connaissances, et ils sont là pour enseigner et former. Et ils sont là aussi pour travailler avec des soignants dans des services de soins à l'amélioration de l'organisation du système de soins.
Quel est l'enjeu d'avoir un patient expert justement dans un service ? C'est la connaissance de la vie avec la maladie qui devient essentielle ?
L'enjeu pour un service, c'est de compléter le savoir que le service a sur la maladie, hein, ce qu'on appelle la maladie à la troisième personne, et avec une connaissance de l'expérience de la maladie, de l'intérieur, du vécu et des solutions. Tout malade a des solutions dans sa tête. Simplement, on ne lui pose pas la question.
Et donc, les patients experts sont là pour apporter ces pistes, ces solutions envers ces malades qui sont démunis, même s'ils sont accompagnés par les médecins, s'ils viennent voir des patients experts, c'est qu'ils sont démunis.
Oui, alors ils apportent des solutions aux malades, mais ils apportent aussi des solutions aux soignants.
À quel type, par exemple, aux soignants? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter?
Ils peuvent aider les soignants à dire, mais vous savez, là, vous pourriez lui dire directement, n'ayez pas peur. Ils peuvent aussi dire, bah, écoutez, si vous voulez, on va faire un jeu de rôle, et puis vous allez me dire qu'est-ce que vous aimeriez dire avec ce patient avec lequel vous êtes en difficulté, je peux vous aider. Enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment, plus de 18% des patients qui viennent à l'université des patients sont envoyés par des soignants.
Donc, le patient expert aide le malade, mais il aide aussi et surtout les soignants, c'est ce que vous
dites. Il aide les soignants. Comme vous le savez, les patients, les soignants en ce moment vont très mal et donc, quelque part, on pourrait dire que les patients soignent aussi le soin.
Alors, pour comprendre exactement en quoi ça consiste, Laurence Côté est avec nous en studio. Elle est diplômée, elle est patiente expert, elle est ancienne cadre d'un grand groupe. Vous avez été ancienne alcoolique et vous allez nous raconter votre parcours et pourquoi vous avez décidé de devenir patient expert. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant.
La vie devant soi, Elisabeth Assayag sur Europe 1.
Les patients experts peuvent-ils faire avancer la médecine? On en parle cet après-midi sur Europe 1. Nous sommes avec le professeur Catherine Tourette-Turgis, fondatrice de l'Université des patients à Paris. Et nous sommes avec Laurence. Bonjour Laurence Côté.
Bonjour.
Alors, félicitations.
Merci.
Vous venez d'être diplômée. Vous êtes patient expert.
Depuis quelques heures.
Alors, comment vous sentez-vous?
Ah bah super heureuse, mais aussi j'ai cette chance donc en direct de remercier le professeur Catherine Tourette et l'Université des Patients, parce que c'est vraiment un diplôme extrêmement intéressant pour bien comprendre sa maladie, donc en l'occurrence la mienne qui a été l'alcoolisme, et c'est un diplôme qui ouvre des portes, et je rebondis aussi sur ce qu'elle a dit, je pense qu'un patient expert peut aider les soignants.
Alors, on va en parler. Vous êtes aujourd'hui, c'est un peu l'aboutissement de beaucoup d'années, des années de combat, parce que vous avez été alcoolique. Est-ce que vous pouvez nous retracer en quelques mots comment on en arrive là? Enfin, comment on en arrive à être patient experte aujourd'hui, alors que vous revenez de loin?
Oui, je reviens de loin, et d'ailleurs, j'ai cette chance d'être en vie. J'ai donc été alcoolique pendant une quinzaine d'années. Alors, comment ça vient l'alcoolisme? Ça vient alors qu'on s'y attend pas. C'est une maladie silencieuse, ça peut arriver à n'importe qui.
Je rappelle, dans un grand groupe.
J'étais cadre supérieur dans un grand groupe de BTP. Je cachais cet alcoolisme depuis des années, avec d'autres addictions, car on est souvent en polyaddiction. Tout le monde savait que j'avais ces problèmes, mais personne ne m'en parlait. Et en fait, finalement, il a fallu que je m'effondre.
Devant tout le monde.
À la sœur Eumenie des Vœux. Alors, si chaque fois j'évoque la scène, c'est qu'elle éveille les consciences.
C'est-à-dire, décrivez-nous cette scène, on ne la connaît pas.
Oh ben, en quelques mots, vous savez, quand vous êtes ivre, en quelques heures, vous savez plus ce que vous dites, vous ne savez plus ce que vous faites, et puis il y a un moment, le corps lâche. C'est ce qui s'est passé physiquement, je me suis donc écroulée. Je suis restée longtemps par terre. J'ai vu surtout beaucoup de gens partir, fuir, au lieu de tendre la main et de m'aider à me redresser. Ça, j'oublierai jamais. Mais tout ça, je n'ai plus honte de cette histoire. Je reprends exactement les mots qu'elle a dit. finalement, c'est le plus beau jour de ma vie. Ma maladie de l'alcoolisme, alors que je ne savais pas que c'était une maladie, est mise en lumière. 3 jours plus tard, je suis donc licenciée, mais il n'empêche que j'ai enfin le temps.
On vous propose pas de vous aider, on vous licencie.
Certainement pas, non. J'ai sali l'image de marque de chez Vinci. Hein, c'était le grand groupe de BTP. Mais quelque part, ça m'a donné enfin. J'avais plus à cacher ma maladie. J'avais enfin le droit de me faire comprendre par un médecin qui va me prendre en soin. J'ai le temps de le faire puisque j'ai plus de travail et je vais mettre 4 ans pour me soigner durablement de toutes les addictions avec une grosse psychothérapie. Et alors que j'avais réenclenché un métier qui était celui d'avocat, je me suis dit non, cette maladie, elle est formidable, j'ai besoin d'encore mieux la comprendre. Parce que c'est pas parce que vous l'avez vécu de l'intérieur que vous la connaissez. Et là, je passe un premier diplôme universitaire sur les pratiques addictives à l'université de Grenoble.
Donc au bout de quelques, là on est au bout de quelques mois, quelques années. Après 4 ans de thérapie, vous vous dites, je vais transformer, je vais en faire quelque chose de ma maladie.
Oui. J'arrête ce métier d'avocat, alors que, voilà, j'avais un métier. Je me dis non. Des avocats, il y en a beaucoup. Il y en a des bons. Par contre, essayer de mieux comprendre comment moi, avec ma culture, avec mon intelligence, je suis tombée dans cette maladie, c'est ça qui m'a intéressée. Et pourquoi je l'ai fait, c'est parce que, comme je commençais à témoigner publiquement, j'avais de plus en plus de témoignages, notamment de femmes, de jeunes.
Qui vous sollicitaient.
Oui, et qui me disaient, madame, à partir de quand on est alcoolique ? Donc tout était à faire, à commencer par en parler à visage découvert, à casser le tabou, l'anonymat, et donc
la honte,
c'est beaucoup plus la honte d'ailleurs que le déni.
Oui, ils sont tous partis quand vous vous êtes effondré.
Exactement, voilà. J'ai plus honte, bien au contraire, et après donc j'ai cette chance de tomber tout à fait par hasard sur le site de l'Université des Patients, de voir qu'il existe un diplôme en éducation thérapeutique, de prendre contact avec l'équipe pédagogique, après un examen de passage qui est tout à fait normal, d'être accepté, d'être aidé matériellement à passer ce diplôme, parce que j'avais plus les moyens. Hein. Tout ça, c'est des petites choses, c'est une grande porte qui s'ouvre et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, depuis quelques heures, je suis maintenant patient experte. C'est-à-dire que j'oublie pas que j'ai été patient, mais je suis devenue un peu experte d'une maladie chronique.
Vous êtes très fière, on le voit. Hein.
Bah, je suis heureuse.
Ça fait du bien.
C'est que je suis heureuse, voilà.
Alors Laurence, donc vous êtes aujourd'hui depuis quelques heures patient expert, vous aidez les alcooliques dans leur quotidien à lutter contre les addictions. Vous n'êtes pas la seule, Virginie, 42 ans, vous êtes avec nous aujourd'hui, vous avez eu un cancer du sein et grâce à ce que vous avez vécu, vous aussi, vous êtes devenue patient expert.
La vie devant soi, Elisabeth Assayag sur Europe 1.
Les patients experts peuvent-ils faire avancer la médecine ? Nous en parlons cet après-midi avec le professeur Catherine Tourette-Turgis, fondatrice de l'Université des Patients à Paris. Nous sommes avec le médecin généraliste, docteur Marcel Ichou. Et nous sommes avec vous, Virginie. Vous avez 42 ans, vous avez eu un cancer du sein il y a quelques années. Vous êtes en rémission depuis 4 ans. Et vous êtes devenu, vous aussi, patient expert.
Oui, tout à fait. J'ai eu mon cancer à 37 ans, cancer du sein, ce qui est très rare d'avoir un cancer du sein avant 40 ans. Donc j'ai vécu les traitements, comme beaucoup. Et quelques années plus tard, après être revenue dans la vie active, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse part de mon expérience. Donc je témoignais dans des magazines, parfois à la radio, mais j'étais anonyme, je me sentais pas légitime. J'étais une patiente, une personne qui avait eu un cancer.
Vous ne vous sentiez pas légitime ?
Non, je me sentais pas légitime, juste un témoignage parmi d'autres. Et puis un jour, je suis tombée sur un article de presse de Catherine Tourette de Turgis, professeure. Et là, ça a été une révélation, je me suis dit, voilà, c'est fait pour moi. Et donc, je me suis empressée de demander à mon employeur, qui est Malakoff Médéric, où j'avais repris donc mon activité professionnelle.
Après les longs mois d'arrêt maladie.
Alors, après les longs mois d'arrêt maladie, j'ai été très bien accompagnée par mon employeur, qui m'a dit de me laisser guider pour ma reprise. Donc, ça s'est très, très bien passé. J'ai été un petit moment en mi-temps thérapeutique et j'ai postulé en interne pour évoluer. Et j'ai eu la chance de pouvoir évoluer en interne.
Donc, un bon accompagnement au niveau professionnel. Voilà, c'est important de le souligner.
Très, très bon accompagnement. accompagnement.
C'est pas toujours le cas.
Voilà. Alors, je tiens à préciser que j'ai eu un très bon accompagnement au moment de la reprise. En revanche, aucun accompagnement durant l'arrêt de travail. Donc, j'étais en contact avec certains de mes collègues avec qui j'avais sympathisé, avec qui j'avais de bonnes relations. Mais au niveau de ma direction, aucun contact. Comme quoi, l'accompagnement est important.
Aussi pendant,
dès l'annonce, parce qu'on se sent mis à l'écart.
Exclu,
complètement. On n'a plus d'objectif. Moi, j'étais commerciale. Du jour au lendemain, mon agenda, c'était devenu des rendez-vous pro qui passaient à des rendez-vous médicaux. C'est un changement de vie.
Avec des chimios,
avec de la radiothérapie, avec des moments de fatigue, avec des bons moments aussi, puisque les moments où on va bien, on a envie de partager. On prend conscience que la vie est fragile et on a envie de vivre. Et donc j'avais cette envie de réussir ma vie, mais aussi de faire quelque chose
de ce cancer. Et alors qu'est-ce que vous avez fait ?
Alors j'ai repris mon activité professionnelle. Déjà c'est pas évident parce qu'on se sent quand même un peu foutu. C'est très très dur d'appeler son employeur. Moi j'ai mis un mois avant de décrocher mon téléphone et d'appeler mon employeur pour lui dire. Voilà, je suis prête. Est-ce que je peux revenir ? Ça faisait 9 mois que j'étais en arrêt.
Le retour se fait sans problème, sans difficulté.
Et en effet,
tout s'est bien passé.
Tout à fait. J'ai repris mon travail donc en mi-temps thérapeutique. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on rentre d'un arrêt maladie, surtout après des gros traitements de chimio, de radiothérapie, et on est sous hormonothérapie, donc on commence un nouveau traitement. Même si on sort des gros traitements, on reste encore quelques années sous traitement. On est lobotomisé. Je ne savais plus me servir de mon ordinateur, je ne savais plus comment décrocher le téléphone, prendre des appels. On arrête de travailler pendant un an. Donc on n'est plus du tout dans...
Que pendant cette année-là, vous avez vécu d'autres choses tellement fortes émotionnellement, tellement d'angoisse.
On a la peur du présent, on se sent seul, même si on est entouré par des amis, par la famille. Et du coup, quand on retourne au travail... On ne sait plus où on se retrouve. On reconnaît ses collègues, mais on ne sait plus pratiquer.
Alors, c'est à partir de toute cette expérience que vous décidez, vous vous dites, je vais aider des patients d'anciens malades
à
réintégrer justement leur travail et je vais devenir patient expert.
Voilà, tout à fait. Donc, je me sentais un petit peu seule, même dans l'accompagnement. J'en parlais autour de moi, j'en parlais un petit peu dans la presse, j'en parlais un petit peu à l'hôpital. Donc j'ai vu cet article de presse sur l'université des patients et là je me suis dit c'est fait pour moi. J'ai postulé, j'ai passé les entretiens téléphoniques, j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour ce diplôme et je suis rentrée à l'université des patients donc en 2017 et j'ai eu la chance donc d'être diplômée en mai 2018.
Alors voilà. Félicitations. Donc là Merci. Vous êtes fraîchement diplômée. Quel conseil pourriez-vous donner justement aux patients ? Là maintenant vous êtes patient expert, vous avez vécu votre cancer, vous êtes retourné au travail avec toutes ces difficultés que vous venez de nous décrire. Alors là en tant que patient expert, quel conseil vous pourriez donner ?
Alors déjà aux patients, surtout ne vous isolez pas. Osez demander et poser des questions au médecin. Le médecin, parfois, ne va pas rentrer dans des petites choses qui paraissent futiles,
comme quoi, par exemple,
parler de ses ongles qui tombent. Quand on est en chimiothérapie, on a des soins à faire au niveau de la peau, au niveau des ongles, de parler de son poids. Cancer hormonodépendant, on a une prise de poids assez importante. Moi, je n'osais pas, par exemple, poser ces questions-là parce que je me disais, il me soigne un cancer,
futile.
Ah oui, c'était futile.
De parler de ça.
Voilà. Et je n'avais personne à qui en parler. Les seules personnes, donc les personnes de mon entourage qui me disaient, mais c'est pas grave, tu as pris du poids, mais tu as envie. C'est vrai. Mais c'est tellement important aussi d'être bien dans sa peau. C'est tellement important de prendre soin de soi. Et là, j'accompagne une personne qui a un cancer et je lui dis, va, pose les questions à ton médecin. N'hésite pas, il n'y a pas de questions idiotes.
Mais vous n'osiez pas vous les poser parce que vous avez l'impression que c'était futile ou parce que le médecin n'était pas non plus à l'écoute ?
Alors, quand on voit un médecin, déjà, on est face à la blouse blanche. Donc c'est intimidant. On arrive dans un univers, la cancéro, c'est un univers assez froid et particulier. Dans la salle d'attente, on se retrouve avec d'autres personnes qui ont un cancer. C'est un univers qui est déjà intimidant. Donc, face au médecin, on est intimidé. Le médecin nous parle de protocoles, nous parle de traitements, nous parle de produits, de parcours, d'effets secondaires, mais ne nous parle pas particulièrement de bien-être. Il va nous demander comment on sent, on va dire, qu'on se sent bien.
Donc vous, justement, vous avez décidé de devenir patient expert pour parler de tout cet aspect du bien-être, de tout ce qui peut accompagner les malades au quotidien. Vous êtes de formidables relais pour les patients, pour les médecins. Et justement, on va demander au médecin Marcel Ichoux, qui est parmi nous, le regard qu'il porte sur les patients experts. Les patients experts peuvent-ils faire avancer la médecine ? On en parle cet après-midi sur Europe 1. Nous sommes avec le professeur Catherine Tourette-Turgis, fondatrice de l'Université des patients à Paris. On vient d'entendre Virginie, on vient d'entendre Laurence, qui sont devenus patients experts. Et nous sommes avec le docteur Marcel Ichoux. Bonjour Marcel.
Bonjour Elisabeth.
Vous êtes médecin généraliste. Marcel, les relations avec les patients sont-elles en train de se transformer quand on entend tous ces témoignages ?
Jusqu'ici, on avait en face de soi un malade et pas une personne. Et compte tenu de la technicité de la médecine, c'est de plus en plus comme ça. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est hyper spécialisé en cancérologie, qui est un expert, avec ce que ça a aussi de connotations négatives.
Donc très technique, c'est ça que vous voulez nous dire quand vous parlez d'expertise.
De plus en plus, quand j'ai commencé médecine il y a bien longtemps, parce que je suis assez âgé maintenant, un cardiologue faisait tout. Maintenant, un cardiologue, il y a des gens spécialisés dans la tension, d'autres spécialisés dans le rythme cardiaque, donc dans les protocoles invasifs pour faire des diagnostics. Donc ça se spécialise de plus en plus. Donc plus vous spécialisez, et moins vous regardez la personne qui est en face de vous. Parce que on est passé d'une médecine qui était au 19e, 20e siècle, une médecine humaniste, à une culture extrêmement scientifique. Alors, sur le plan scientifique, on est extrêmement pointu. Mais sur le plan humain, on l'est de moins en moins. La relation thérapeutique avec un patient, c'est la confiance et la relation qui s'établit avec le patient. C'est pour ça que je réagis à ce que vous disiez. Évidemment, s'intéresser au poids ou au vécu, c'est la moindre des choses. Sauf que quand vous êtes en face d'un quelqu'un qui va faire des chimiothérapies, il a ni la formation.
Ni la formation.
On n'est pas formé à ça. Vous savez comment on passe des études de médecine maintenant. On répond à des QCM, on avale des tonnes de données et on répond à des QCM. C'est donc votre vécu personnel qui fait que, oui ou non, vous avez une propension à écouter le malade. Et puis parfois, c'est difficile d'entendre la plainte des patients. C'est même insoutenable dans les services de cancéro. Parfois, je peux vous dire, on se blinde aussi parce qu'on met un peu à l'écart.
De distance, voilà. Par rapport à ça.
Donc, oui, il y a une révolution. Il y a une révolution dans laquelle maintenant, on doit prendre en compte le malade, mais on a beaucoup de boulot à faire parce que justement, le système de soins n'est pas adapté.
Alors, ce boulot, vous, Marcel Ichoux, il est peut-être possible de le faire avec les patients experts ?
Oui, il est possible de le faire, mais il faut structurer tout ça. C'est-à-dire que vous avez la maladie, mais la maladie, on la soigne au moment où le patient vient. On a combien de temps ? Parce qu'on ne peut pas parler de ces problèmes si on ne parle pas de système de soins. Si on ne remet pas en cause le système de soins, on ne peut pas arriver à prendre sérieusement en charge les patients.
Est-ce que vous,
oui, sur le plan technique, mais pas sur le plan humain.
Est-ce que vous, par exemple, Marcel, vous aimeriez pouvoir renvoyer vers des patients experts vos propres patients qui ont des questions auxquelles vous n'êtes pas toujours apte ou même pas l'envie de répondre ?
Dès lors qu'il y a un moyen d'aider des patients, il est clair que c'est intéressant d'avoir une filière. Le problème, c'est de trouver les bonnes filières.
Mais vous avez conscience que le docteur, la blouse blanche, Virginie en parlait, impressionne, ça intimide, vous le savez.
Personnellement, j'en ai conscience, mais en même temps, c'est ce dont vers quoi je me révolte. C'est-à-dire qu'on doit être humble vis-à-vis d'un patient, on doit être à l'écoute, et sûrement pas de mettre sur son piédestal en essayant d'impressionner le malade. Les grands médecins, en général, ne sont pas comme ça. Je ne sais pas si vous avez entendu la grève de peau du professeur Mimoun. C'est un type extraordinaire. Il n'a parlé que de son patient. Pourtant, sur le plan technique, c'est une sommité mondiale. Mais il parlait de son patient.
Mais ils sont encore trop rares, ces médecins.
Mais c'est extrêmement rare parce que ni la structure hospitalière, ni la formation médicale ne poussent à avoir des médecins qui s'intéressent à leurs patients. Et on s'intéresse non pas à une maladie, mais à son patient. Parce que le vécu, vous, madame, de votre cancer du sein,
Virginie.
C'est pas Virginie, pardon, n'est pas celui d'une voisine ou de quelqu'un d'autre. Ça n'est pas le même vécu. On ne vit pas la même chose. Donc, évidemment qu'il est important d'avoir des relais. Mais il faut aussi quand même les structurer.
Catherine Tourette-Turgis, le docteur Marcel Ichou nous disait qu'il faut que tout ça soit un petit peu encadré, il faut que ce soit un petit peu structuré. Est-ce que vous, justement, du côté de l'Université des patients experts, est-ce qu'il y en a de plus en plus? Est-ce que vous avez de plus en plus de demandes? Est-ce que c'est quelque chose qui va émerger? Et peut-être pourra-t-on voir un jour dans chaque médecin qui aura un listing de patients experts?
Bon, ce qui se passe à l'Université des patients Paris-Sorbonne Université, c'est que la faculté de médecine est partie prenante. Elle abrite, elle porte, elle est fière de ce projet.
Donc elle en a besoin.
Elle en a besoin, elle soutient, et donc les gens qui enseignent dans nos diplômes sont des PUPH, d'oncologie, etc. C'est-à-dire des gens qui ont déjà fait un super chemin vers le patient, pour ne citer que la pitié, tenons.
Il y a des médecins qui veulent se former aux patients experts ?
Il y a des médecins surtout qui interviennent et qui travaillent avec nous. C'est-à-dire chaque diplôme, on a le corps médical avec nous.
Par exemple, il y a beaucoup de pathologies pour lesquelles on n'a pas de traitement. Mais ça fait des millénaires qu'on n'avait pas de traitement. Et pourtant, la médecine existe. Et effectivement, quand il n'y a pas de traitement au sens chimique du terme, le premier traitement, c'est l'écoute. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez des tas de médecines, entre guillemets, qui en sont plus ou moins d'ailleurs, qui marchent. Qui marchent pourquoi ? Parce qu'on écoute le patient, alors que le médecin ne les écoute pas. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, quand vous avez des pathologies, je vais prendre une pathologie d'ordre général comme le diabète, qui est complexe, où on a des traitements, il est clair que les associations de patients, patients experts, sont indispensables. Parce que le temps qu'on ne peut pas passer avec son patient à expliquer
le quotidien,
eh bien, là, vous trouvez des réponses. Et il faut parler aussi d'argent. Comment on finance ce temps? Et il est clair que je ne sais pas comment c'est pour...
Catherine Tourette.
Pour c'est du bénévolat.
C'est du bénévolat ou les patients experts sont rémunérés?
Donc il y a des patients experts ou des patients partenaires qui deviennent par exemple enseignants, donc ils sont rémunérés. S'ils sont formateurs, ils sont rémunérés. Ils montent des petites structures, ils accèdent au statut d'auto-entrepreneur, ils se font embaucher. Donc il y a une partie, en tout cas il y a une tension, une vision vers ce type de possibilité, c'est-à-dire qu'on puisse aussi permettre à des personnes de professionnaliser. C'est ce qu'on appelle les métiers émergents en santé, les métiers au service des professions de santé. Virginie, comme médiateurs pairs en santé mentale, ils sont en principe rémunérés.
Virginie, vous êtes rémunérée ?
Là, je vais monter ma structure en tant que consultante, car j'ai des sollicitations. L'écoute, c'est très important. Et parfois, le malade, il trouve même la solution en nous parlant de l'écoute. On n'est pas là pour faire du conseil,
mais d'abord pour écouter. Ça se passe sur internet. Aubépine a 28 ans, sa chaîne YouTube cartonne. Elle s'adresse aux malades atteints de diabète. Restez avec nous, elle va nous raconter comment elle a transformé sa maladie.
La vie devant soi, Elisabeth Assayag sur Europe 1.
Les patients experts peuvent-ils faire avancer la médecine ? On en parle cet après-midi sur Europe 1. Nous sommes avec Catherine Tourette-Turgis, fondatrice de l'Université des patients, avec le médecin généraliste Marcel Ichou. Et nous sommes en ligne avec Virginie. Virginie ou Aubépine ? Bonjour.
Bonjour. Alors, c'est Virginie.
Alors, Virginie, vous avez 27 ans, vous êtes de Nancy, vous êtes diabétique et vous racontez sur votre chaîne YouTube qui s'appelle Aubépine, votre diabète au quotidien, c'est ça ?
C'est ça, oui. Voilà.
Alors, racontez-nous, c'est quoi le principe ? Vous expliquez, on a vu quelques extraits en préparant cette émission, vous expliquez le fonctionnement de votre pompe à insuline, votre quotidien, l'hypoglycémie.
C'est ça, oui. Donc, en fait, moi, j'étais déjà youtubeuse à la base, donc youtubeuse beauté, mais je trouvais que j'apportais plus vraiment des choses concrètes aux gens. Et donc, étant diabétique depuis l'âge de 10 ans, moi, une fois, j'ai voulu regarder... En fait, je voulais avoir cette super pompe à insuline qui est sans fil. Et j'ai cherché des renseignements sur Internet, mais à part des choses en anglais, je trouvais pas grand-chose. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, moi, lancer ma chaîne YouTube pour expliquer le fonctionnement de ces appareils qui révolutionnent le quotidien des diabétiques. Et du coup, de parler de la maladie et de dédramatiser un petit peu la maladie en restant vraiment toujours du côté positif et en aidant les gens à se sentir mieux avec leur diabète.
Et donc, vous avez monté cette chaîne YouTube et vous avez eu énormément de sollicitations de personnes atteintes aussi de diabète.
Oui, c'est ça. Donc moi, je suis active sur YouTube, mais également sur les réseaux sociaux, où je communique énormément sur mon quotidien avec le diabète, quand ça va bien et quand ça va pas. Et il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans les mêmes situations que moi, qui viennent me poser des questions, qui ont besoin de réponses à leurs questions. Et c'est vrai que, comme vous disiez tout à l'heure, là, j'ai pas la blouse blanche, je vis vraiment la même chose qu'eux, et je pense que les gens sont plus ont plus tendance du coup à me poser des questions à moi plutôt qu'à leur médecin.
Mais quel genre de questions vous posez, et c'est quel type de questions qu'on ne pose pas forcément au médecin?
Ça peut être absolument tout, hein. Autant vraiment des questions techniques. Donc là, quand je peux y répondre, ou vraiment quand c'est médical, quand je peux y répondre avec mon vécu, j'y réponds. Mais sinon, je les dirige vers leurs infirmières, vers leurs professionnels de santé. Mais sinon, voilà, c'est énormément d'astuces de comment, quand ils ont un problème avec leur cathéter ou autre, ça peut vraiment varier sur tout.
C'est ça, vous parlez d'astuces, Virginie, mais en aucun cas vous ne souhaitez vous substituer et remplacer le médecin. C'est important de le souligner.
Du tout, du tout. Moi, c'est vraiment pour apporter mon vécu, leur montrer qu'ils sont pas tout seuls, qu'on est plusieurs à être dans certaines situations communes. Mais oui, non, en aucun cas, je voudrais remplacer un médecin. Moi, c'est vraiment de l'accompagnement à côté, et pour vraiment les aider à mieux se sentir avec leur maladie. Essayer d'apporter les touches positives au diabète, mais en aucun cas substituer un médecin.
Est-ce que c'est une façon pour vous de mieux accepter votre maladie, qui est une maladie chronique?
Oui, tout à fait. Il faut savoir que les diabétiques, on est énormément, on dirait pas comme ça. Et sur les réseaux sociaux, ça communique énormément, une très grosse communauté. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, tout le monde s'aide. Peu importe le problème, c'est tout le monde. Quand cette personne a vécu la même situation que la personne qui demande de l'aide, tout de suite, les personnes communiquent entre elles. Et ça, c'est très important pour nous, les diabétiques.
Alors vous, vous n'êtes pas diplômé, vous n'êtes pas patient expert, mais vous souhaitez le devenir?
Oui, tout à fait. Donc pour l'instant, je fais partie donc de l'association française des diabétiques, donc de Nancy. Je vais déjà devenir bénévole active pour pouvoir animer des discussions, de paroles. Et par la suite, oui, j'aimerais être patient expert pour pouvoir. Mon but ultime serait vraiment d'accompagner les enfants dans les écoles pour faire de la sensibilisation auprès des professeurs, des élèves, pour justement que l'élève, que le patient diabétique, l'enfant diabétique ne se sente pas seul. Puisque moi, j'ai eu l'occasion de vivre ça, où je me suis retrouvée toute seule à l'école, sans personne pour expliquer un petit peu comment ça marchait. Donc j'aimerais devenir patient expert pour accompagner les enfants par la suite.
Donc vous aussi, Virginie, on a entendu d'autres témoignages tout à l'heure, vous transformez en quelque sorte votre maladie, hein, vous en faites quelque chose d'utile et vous ne le gardez pas pour vous.
Oui. C'est ça. Mais j'ai mis du temps avant de l'assumer et d'oser parler de ma maladie. C'est pour ça que maintenant, j'ai envie d'aider les personnes qui pourraient être comme moi, comme j'étais avant, en fait.
Merci Virginie de nous avoir appelé sur Europe 1. D'autres comme Anne Alexandrine se met carrément en scène. Elle est en scène sur scène, elle est atteinte d'une sclérose en plaques et dans son spectacle, elle détaille les tracas du quotidien. Les patients experts peuvent-ils faire avancer la médecine? On en parle cet après-midi sur Europe 1. Nous sommes avec la professeure Catherine Tourette-Turgis, fondatrice de l'Université des patients à Paris. Nous avons entendu les témoignages de Virginie, de Laurence, toutes deux devenues patients expertes. Hein. Nous sommes avec le docteur Ichou, médecin généraliste, et nous sommes avec Anne Alexandrine. Bonjour Anne Alexandrine.
Bonjour.
Vous avez 31 ans, vous étiez avocate et vous avez dû arrêter à cause de la sclérose en plaques.
Oui, tout à fait. C'était devenu très fatigant et je faisais beaucoup de poussées de sclérose en plaques. Du coup, on avait déjà réduit mon rythme de travail, mais ça n'avait pas suffi.
Mais vous continuez à défendre les gens, mais d'une autre façon, parce que désormais, vous êtes patient experte et vous montez même sur scène pour sensibiliser le grand public à cette maladie. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'en parler par ce biais-là?
Ça m'a beaucoup apporté personnellement pour accepter de vivre avec cette maladie. Et puis après, ça m'a apporté beaucoup de positif, parce que de pouvoir aider des autres patients, de pouvoir apporter aux médecins une expertise, d'expérience complémentaire. Et puis voilà, c'est cet échange-là qui me qui me manquait et qui m'a fait beaucoup avancer.
Donc ça vous aide à accepter votre maladie. Qu'est-ce que vous racontez sur scène? Qu'est-ce que vous apportez au grand public et aux malades, surtout atteints de sclérose en plaques?
Alors sur scène, je me suis créé un personnage qui est un peu cynique, forcément, et qui a vocation justement à expliquer ce qu'est la sclérose en plaques, parce qu'on connaît tous quelqu'un qui en a une sans savoir ce que c'est forcément, et montrer que la sclérose en plaques, ça n'est pas forcément le fauteuil roulant, mais qu'il y a plein d'autres symptômes invisibles, des symptômes un peu tabous, comme les troubles urinaires ou troubles sexuels. Donc j'en parle sur scène et je m'en amuse pour dédramatiser tout ça et pour faire connaître cette maladie.
Merci Anne-Alexandrine. On entend donc que vous mettez une distance finalement vis-à-vis de la maladie pour pouvoir l'aborder à travers toutes ces facettes. Laurence Côté, je m'adresse à vous. Comment est-ce que vous parvenez avec les alcooliques à pouvoir mettre une distance et à les aider à lutter contre leur alcoolisme?
Alors moi-même, j'ai mis de la distance par rapport à mon histoire. Et ça, c'est dû à ma formation.
Essentiel.
Essentiel, effectivement. On oublie, quand on anime un groupe de parole ou une séquence thérapeutique, on est en co-animation souvent avec un soignant. Moi j'ai une vacation au CHU de Grenoble avec un psychiatre. Et ça, c'est formidable. Et je me mets dans la peau d'un soignant tout en n'oubliant jamais que j'ai été patient. Donc on a du recul et je pense qu'on a des mots à nous. Moi, en écoutant tout à l'heure Virginie, je retrouve les mots qui ont été le mien. Et ces mots-là, ce sont les mêmes, quelle que soit la maladie chronique.
Et quels sont ces mots?
Écoute, les silences. Ce que le médecin n'a pas le temps de nous donner. Le temps, nous, que l'on imprègne ce qu'on est en train de nous annoncer, ou le protocole de soins qui est lourd, et on n'y comprend rien, donc on respecte le silence. Et c'est vrai que le patient expert, il a tout son temps. Il peut prendre après le patient dans la salle d'attente, repartir ensuite voir le soignant, et être parfois le porte-parole du patient. Donc on est vraiment le maillon d'une chaîne, un maillon nécessaire, mais tout est à remettre aussi à plat, le système des soins, etc. Michaud. Il faut qu'on arrive tout doucement, nous les patients experts, à se faire accepter, à trouver notre place. Elle l'a très bien dit, la personne sur le diabète, elle dit « attendez, je ne suis pas médecin ». Il ne faut pas que les médecins ou les infirmières pensent qu'on prend
vous
leur
souhaitez
place.
Les remplacer, pas du tout. Voilà. Vous êtes complémentaires.
Voilà. Mais pour cela, il faut nous être formés, avoir beaucoup de recul par rapport à sa maladie, avoir une bonne connaissance, je dirais, de sa maladie chronique, mais de toutes les maladies chroniques. Et ça a été une très grande richesse pour moi dans le DU de rencontrer plusieurs malades et d'apprendre toutes ces maladies chroniques que j'ignorais. Et j'ai appris qu'on était donc 15 millions. C'est quand même important. Donc voilà, je crois que j'ai répondu. Je pense qu'on a une vraie place dans un système de soins qui doit être remis à plat, mais il est indispensable pour nous de nous former pour être crédibles.
Vous n'avez jamais ressenti de la défiance de la part des médecins ?
Oh si, j'ai eu des échecs. J'ai eu des échecs, bien sûr, qui m'ont chaque fois fait rebondir. Mais par contre, là, maintenant, j'ai mon diplôme et en septembre, je démarre avec deux vacations au CHU de Grenoble.
Ils vous ont fait des remarques, des réflexions ?
Non, ils m'ont dit on vous attendait, mais on attendait que vous vous formiez.
Donc voilà. Ils ont besoin, on l'a entendu avec Marcel Hichaud, d'un cadre.
Oui, bien sûr. Et ce cadre,
c'est ce
j'ai
diplôme
mis
qui
en
le
contact
délivre.
Le professeur de Mathéis avec le professeur Catherine Dourette. Donc on est en train de bâtir quelque chose d'extraordinaire et c'est unique au monde. Et ça se passe en France.
Marjorie Siddiqui entre dans le studio pour la conclusion de cette émission avec son info en plus.
La vie devant soi sur Europe 1.
Marjorie, vous nous racontez une expérience médicale pas tout à fait comme les autres. Elle a eu lieu dans un hôpital parisien.
Oui, effectivement, Elisabeth, vous l'avez dit, ça se passe à l'hôpital Beaujon de Clichy, près de Paris. C'était il y a quelques semaines, au mois de juin. L'équipe du service de gastro-entérologie a participé à une expérience pendant 36 heures pour comprendre et vivre le quotidien des malades chroniques de l'intestin, cette fois-ci. Ça concernait cette maladie-là. L'expérience qu'ils ont vécue vient d'un laboratoire japonais. Le protocole s'appelle « in their shoes », ça veut dire « dans leurs chaussures ». Et ces 40 personnes, c'est l'équipe médicale qui a accepté de vivre dans la peau des patients pour mieux connaître alors les symptômes, les effets des traitements, autrement qu'en théorie. Parce que ça, la théorie, les médecins la connaissent par cœur. Alors, là, ils ont besoin de pratique. Eh bien, effectivement, une fois de plus, c'est la technologie et c'est grâce à leur téléphone portable. Ils avaient téléchargé une application et cette application va leur donner à n'importe quel moment de la journée des défis à relever et des instructions qu'ils sont obligés de suivre. On les prévient qu'au cas désagrément de la maladie ne leur sera épargné. Alors, dans l'équipe, vous avez effectivement le professeur du service qui va lui-même participer. Vous avez des aides-soignants ou encore des coordinateurs en recherche clinique. Au total, il faut réaliser 70 défis. Alors, par exemple, le téléphone sonne, le professeur doit décrocher ou regarder son instruction. Et là, on lui ordonne de se rendre aux toilettes en urgence. C'est vraiment un ordre et c'est un des désagréments importants des maladies de l'intestin. Et le professeur doit se mettre dans la peau du patient et se rendre tout de suite aux toilettes aux urgences, comme s'il était un patient atteint de cette maladie. Et là, en fait, il peut se rendre compte exactement que c'est gênant. Il faut qu'il prenne conscience que les malades peuvent pas toujours...
Ont des troubles secondaires qu'on ne mentionne pas forcément dans le cabinet. Laurence Côté, je vous vois acquiescer.
Effectivement, c'est une immersion totale. Et rien de tel que de la connaître de l'intérieur un peu, cette maladie. Donc c'est une très belle expérience.
Et alors, à part se rendre aux toilettes en urgence, on a demandé à ce professeur de porter des protections. Ce qui n'est pas évident à faire, mais il l'a fait vraiment. Et on leur dit bravo parce que ce n'est pas évident de simuler ça. Et ils l'ont fait vraiment avec tout leur cœur. On leur a aussi demandé de manger des barres de céréales, alors qu'il ne faut surtout pas, en période de crise, manger ces barres-là, sinon ça augmente vos douleurs. Et on leur a aussi, sur le côté psychologique, un peu tendu des pièges. Par exemple, des comédiens étaient là pour appeler les participants en se faisant passer pour des médecins. Et il fallait que, sur le lieu où ils étaient, il fallait qu'ils répondent à des questions aux médecins du style, dites-moi comment est votre transit aujourd'hui, ce moment.
En ce il fallait qu'ils évacuent la gêne potentielle de.
Il fallait que l'équipe médicale réponde tout de suite. Et ça, c'est pour montrer que quand on est sur un lieu de travail et que le médecin appelle et vous demande des questions très intimes comme ça, il faut que le médecin comprenne aussi que c'est pas facilement évident et qu'il faut s'adapter. Et les participants devaient enfin également répondre par SMS, annuler une soirée en raison de leur douleur, hein, tout le temps digestive. Et on leur demandait de se justifier auprès des amis. Donc les amis envoyaient un texto en disant tu viens ce soir à la soirée au dîner, et l'équipe médicale devait dire bah non, je ne peux pas, mais il fallait qu'ils se justifient. Donc soit ils inventaient, soit effectivement ils disaient j'ai des problèmes au ventre, mais dans tous les cas c'est très gênant. Et en fait, moralité pour l'équipe médicale, l'expérience n'était pas évidente au début parce qu'ils ont vraiment pris en compte la difficulté des patients. Le test va être testé un petit peu partout déjà pour former d'autres équipes médicales. Et en conclusion, les médecins sont les experts du savoir, c'est vraiment ce qu'on a retenu de l'expérience, mais les patients, eux, comme vous mesdames aujourd'hui, ne seront jamais médecins, mais vous êtes des experts du vivre avec
et de l'expérience. Merci Marjorie, on vous retrouve demain. Merci à vous tous d'être venu et nous voir aujourd'hui, d'avoir parlé avec tant de sincérité de votre parcours de patient expert. Quant à moi, je vous retrouve demain. Nous parlerons de nos ados. Les ados sont-ils devenus accros au porno ? Nous en parlons demain à partir de 15h.